Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Cyprien Kern, grande figure du monde orthodoxe au XXe siècle. Né en Russie en 1899, Cyprien Kern est mort en 1960 en France, où il vivait, enseignait et exerçait son service pastoral depuis de nombreuses années. Pour en parler, nous recevons le père Serge Sologoub, recteur des paroisses Saint-Dimitri de Paris à Angers et de Saint-Alexis du Gine et Sainte-Martyre Marie de Paris à Lyon, et responsable des relations écuméniques auprès de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Père Serge, bonjour.
Bonjour.
En deux mots, qui était le père Cyprien Kern ?
C'était un théologien, un savant, un moine, un pasteur et un ami. Pas mon ami, c'était l'ami en particulier de mon arrière-grand-père. Et donc dans la famille, on racontait beaucoup de choses sur lui. Mon arrière-grand-père a même laissé des écrits, et c'est le héros d'un récit qui s'appelle « Reka Vremion » en russe, donc le fleuve du temps, et où il met en scène le père Cyprien et l'Institut Saint-Serge, voilà la colline qu'on en connaît bien à Paris.
Nous aurons l'occasion, au cours de cette émission, de parler souvent des souvenirs qui vous ont été rapportés par votre famille. Bon, je rappelle aussi que cette émission est faite à l'occasion du 120e anniversaire depuis sa naissance. Hein. Les liens donc de la famille Sologoub et le père Cyprien Kern.
Donc c'est mon arrière-grand-père, donc l'écrivain russe Boris Zaïtsev, qui fait sa connaissance en 1928. Le père Cyprien donc est à Belgrade. Il y a une réunion des le gouvernement serbe a invité les différents intellectuels de russes à se joindre, et donc il y a la première rencontre, et mon arrière-grand-père raconte donc un jeune moine grand et mince avec de grands beaux yeux et des mains gracieuses. Il m'a tout de suite plu, de beauté et élégance, raffinement particulier de l'apparence et des manières. Avec ses longs doigts, il m'a donné son livre, et donc c'est le premier livre que le père Cyprien a édité sur les lys liturgique, et qui est dédicacé donc de père Cyprien à mon grand-père, et qui est toujours dans la bibliothèque de l'arrière-grand-père.
Est-ce que dans votre famille, on parlait vraiment de lui beaucoup ? C'était une présence comme ça ?
Quand il est arrivé en France, c'est devenu le confesseur donc, de mes arrière-grands-parents. Il venait souvent à la maison, c'est lui qui a baptisé mon père. Et donc il y avait une relation vraiment fraternelle. Dans sa vie, donc, le père Cyprien était donc professeur à Saint-Serge. Il avait été nommé comme prêtre à Clamart. Mes arrière-grands-parents habitaient dans le 15e, et ils partaient le matin de Saint-Serge, le samedi matin. Souvent, il n'y avait pas de métro, ni de transport en commun. Et donc, ils partaient à Saint-Serge, ils s'arrêtaient à midi pour déjeuner avec mes arrière-grands-parents, et puis ils repartaient à Clamart pour célébrer dans sa paroisse. Et puis le dimanche, au retour, ils s'arrêtaient aussi chez eux.
Et à part la présence humaine, est-ce que vous pensez qu'il y avait aussi une présence pastorale, je dirais, qui est passée après dans l'enseignement, dans la famille, dans la manière de voir la vie chrétienne ?
Le père Cyprien est un liturgiste, d'abord. La première chose, c'est un liturgiste, un intellectuel. Et je pense que dans sa façon de transmettre la vie liturgique, et je dirais la vie de l'Église comme étant la liturgie du monde, quoi. C'est cette théologie liturgique qui a été redécouverte à l'Institut Saint-Serge, et puis qui a été, je dirais, peut-être révélé, étudié et organisé un peu par le père Alexandre Schmemann, qui était son étudiant, on l'a aussi vécu dans la famille, quoi. On l'a reçu. Alors je ne sais pas si c'est lié au père Cyprien ou si c'est un hasard, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important que je pense quand mes parents ont été les fondateurs aussi de la paroisse Saint-Jean le Théologien, une paroisse francophone qui a été fondée il y a 40 années. Et que j'ai eu la chance de servir comme prêtre pendant 20 ans, voilà, on sent qu'il y a toute cette expérience liturgique qui était le socle de notre existence, donc paroissiale, mais aussi familiale.
Très bien, alors je rappelle aussi que très récemment, vous avez donné une conférence dans le cycle des conférences de Saint-Stéphane, donc rue Georges Bizet à Paris, sous le titre « Le père Cyprien Kern, le savant, le pasteur et l'ami ». Alors on va commencer dans l'ordre, si vous voulez, sa biographie, la partie russe d'abord, et puis l'arrivée en France.
À Saint-Pétersbourg. Son père était le directeur de l'Institut Sylvicole de Saint-Pétersbourg, et donc on enseignait les forêts. Et sa mère est une femme pieuse. Mon arrière-grand-père, dans ses récits, parle d'une femme d'une famille de vieux croyants, mais je n'ai pas retrouvé d'autres sources. Quoi. Ça a été repris par plusieurs personnes comme ça, comme argent comptant. Je mettrai ça un peu entre entre guillemets. Elle était effectivement pieuse. On a retrouvé dans les... Ils sont restés, eux, en Russie, les parents, et elle raconte à son mari, quoi, elle laisse des lettres à son mari, des messages à son mari, en disant que voilà, aujourd'hui, je suis allé faire la queue pour la viande, dans les années 30, donc les années les pires en Union soviétique. Je suis allé faire la queue parce qu'on nous a promis de la viande dans ce magasin-là, et si j'en trouve pas, je vais aller après au sanatorium dans cette rue, dans telle rue. Et puis, si on regarde la géographie, dans cette rue-là, il n'y avait aucun sanatorium, mais par contre, il y avait une église, et donc, pour ne pas dire qu'elle allait à l'église, elle disait qu'elle allait au sanatorium, voilà, parce que ça lui faisait du bien, elle en avait besoin pour son âme. Donc voilà, on voyait quelqu'un qui allait à l'église, même dans les périodes les plus terribles de la persécution des chrétiens, elle a continué à aller à l'église. Donc son père était un intellectuel, quoi, donc un directeur d'un institut universitaire. Et puis, lui était élève du lycée Alexandre Tsarskoye-Selo, donc le grand lycée par lequel est passé en particulier Pushkin, mais et tant d'autres. Et quand le lycée a fermé au début de la Révolution, il est arrivé à Moscou, à l'université de Moscou, où il a commencé ses études de droit. Pendant qu'il était à Moscou aussi, il a fait ses premières expériences, je dirais, avec la vie intense de l'Église. Quoi. Il a assisté à quelques séances du Concile de Moscou, il a assisté aux célébrations célébrées par le patriarche, donc nouvellement élu, Saint-Tikhon, qui était confesseur de la foi, donc le métropolite de Moscou qui a été élu. Et puis c'est à cette occasion-là aussi qu'il rencontre son père spirituel, le métropolite Antoine Chrapavitsky, qui est aussi une grande figure, qui a été le supérieur des quatre académies de théologie en Russie, qui a été un grand sergent recruteur de moines intellectuel et qui a été après à la tête de ce qu'on appelle l'Église russe sans frontières, donc en Serbie, jusqu'en 1936. En 1921, il quitte la Russie et se retrouve à Belgrade, donc dans cette ville qui accueille beaucoup de Russes, et où il termine ses études de droit, où il commence, qu'en 1920, est fondée la faculté de théologie à l'université de Belgrade, et il fait la théologie qui termine en 1925. Et là, en 1925, on lui propose d'aller enseigner à Saint-Serge, qui est en train de se créer à Paris, et en même temps on lui propose d'enseigner au séminaire de Bitoli, donc en Macédoine du Nord, et Monseigneur Antoine Chrapavitsky qui lui conseille d'aller plutôt à Bitoli. Il fait « Oui, on vous a proposé un poste à l'Institut Saint-Serge, c'est bien là-bas votre place parce que vous êtes un homme de science et de livres. Bien sûr que c'est très bien pour vous, mais il vaut mieux que vous passiez d'abord par l'enseignement au séminaire. Le séminaire vous donnera maintenant plus et vous apprendra davantage en matière théologique et sur la vie quotidienne. Au séminaire, vous devrez enseigner l'écriture sainte, l'histoire, la théologie liturgique, etc. Tandis que dans une école supérieure, vous deviendrez le spécialiste d'une question particulière. » Et donc, il a suivi ce conseil. Et effectivement, donc il a enseigné toutes sortes de matières. Et donc, en 1927, il est ordonné moine et prêtre. Et puis, en 1928, il est envoyé comme chef de la mission spirituelle russe en Palestine. Et donc là, il reste 2 ans, et c'est pour lui 2 années très importantes, même si c'est difficile avec la hiérarchie russe sur place. Il s'ouvre à l'orthodoxie, il découvre l'orthodoxie universelle, et puis en même temps, les contacts avec d'autres chrétiens. Les dominicains de l'école biblique, des anglicans, et c'est pour lui une ouverture très importante. En 1931, il retourne en Serbie. Il est de nouveau prof à Bitoli, donc là aussi il est content parce que c'est pour lui ça le rapproche de la Grèce. Et donc là, je crois qu'en Palestine, en Terre Sainte, il a redécouvert un peu l'orthodoxie universelle, mais aussi l'importance du grec. Je crois qu'il aimait beaucoup la langue grecque. Quand il célébrait, même quand il célébrait en slavon, il lisait les prières en grec et il faisait juste les exphonèses en slavon. Et voilà, il y avait cet amour pour la Grèce. Et en même temps, il découvre là aussi une autre dimension et il commence à souffrir de cette existence dans cette église russe hors frontières, qui critique son provincialisme un peu. Il aspire à autre chose. Donc, quand il rentre en 1931, il devient membre du clergé de l'église serbe. Et en même temps, il regarde vers Saint-Serge, donc il l'avait invité vers Paris. À ce moment-là, Monseigneur Loge avait demandé d'être attaché au patriarcat de Constantinople, au patriarcat œcuménique, et pour lui c'était la chose à faire, quoi, c'était juste et théologiquement et canoniquement et aussi politiquement, quoi, je dirais, d'avoir une liberté que laissait et le patriarcat, je dirais, et d'avoir aucun lien avec l'État, chose qui n'était pas, qui n'y avait pas possible en Russie, qui était moins possible en Serbie. Et donc, voilà, son objectif, c'est ça. En 1936, quand il reçoit l'invitation de venir à Paris pour enseigner à Saint-Serge, il quitte la Serbie. L'église orthodoxe de Serbie n'est pas très contente. Le patriarche voulait en faire un de ses évêques auxiliaires. Mais finalement, il arrive donc à cet institut où il passe les 25 dernières années de sa vie. Voilà, alors pas toujours facile. Il est nommé à l'action orthodoxe, ce qu'on appelait l'action orthodoxe, donc l'œuvre monastique et missionnaire de Mère Marie Skoptsov, de Sainte-Marie de Paris. Et là, je dirais, les caractères sont trop différents pour que ça puisse se passer facilement.
On fait un petit point ici pour entrer dans l'église, évidemment, avec l'extrait de l'hymne des chérubins, chanté par l'ensemble Harmonie géorgienne sous la direction de Nana Peradze. Et après cet extrait de l'hymne des chérubins par l'ensemble Harmonie géorgienne sous la direction de Nana Peradze, retour à notre discussion avec le père Serge Sologboub pour cet hommage au père Cyprien Kern. Et voilà donc le père Cyprien Kern en France. Alors vous dites qu'il a eu, c'est pas entendu avec Mère Marie Skoptsov.
Donc ça, on
actuellement
imagine...
Sainte Marie. Ouais.
Oui. On imagine très bien, quoi, je dirais, le père Cyprien, qui est un homme de livres, d'un homme de science, qui a besoin du calme pour pouvoir étudier, et puis Mère Marie, qui avait ce monachisme ouvert et qui accueillait tout le monde. Voilà, donc il y avait une incompatibilité de caractère qui était évidente et que le métropolitologue a tout de suite compris, et il a nommé le père Cyprien, donc dans cette petite paroisse de Clamart, qui est une paroisse familiale sur le territoire du prince Trubetskoy, où le père Cyprien s'est tout de suite très bien entendu, quoi. Il était au milieu d'un milieu intellectuel, de gens qui le comprenaient. Les gens venaient se confesser à lui et il prenait, quoi. On a les lettres qu'il écrivait, par exemple, à une jeune fille de cette famille, quoi, entre 14 ans et 25 ans. Et voilà, il est très attentif, je dirais même aux histoires, ou peut-être qu'on pourrait même dire historiette, amoureuse de cette fille. Mais voilà, il prend ça très au sérieux, il l'accompagne, il lui donne des conseils, il la soutient, il la console. Et voilà, ça devient un vrai ami, quoi. Je crois que c'est aussi un des signes de cet homme, c'est cette amitié, et qui se traduit par le café byzantin, je dirais, ou turc, selon les, ou grec, qu'il faisait dans sa chambre. Donc, à Saint-Serge, il avait une petite chambre remplie de livres, et puis une toute petite cuisine, et dans laquelle il préparait du café, et tous les gens qui ont été en contact avec lui, ses étudiants, que le père Boris Bobrinskoy, qui était un de ses étudiants, le père Alexandre Schmemann, parle qu'il allait tous les jours rendre visite au père Cyprien à Saint-Serge, 6 ans comme étudiant, 5 ans comme collègue, professeur. Et il y avait ce café turc, mais aussi des personnes plus étonnantes. Le père Placide de Sales, pour les 50 ans de son décès en 2010, il y a eu du décès du père Cyprien, il y a un colloque qui a eu lieu à Saint-Serge. Et il y a une communication du père Placide sur le père Cyprien et Saint-Maxime le Confesseur. Quand j'ai vu ça, j'étais très surpris, parce que je me dis, mais comment il... Je pensais pas que quelque chose avait été traduit en français sur le travail de Saint-Maxime. Et en fait, c'était des vieux souvenirs du père Placide, encore catholique et maître des novices d'un monastère cistercien, qui voulait ouvrir un peu ses frères aux autres pères, pas seulement à saint Thomas d'Aquin, et qui venait voir dans les années 50 le père Cyprien, et qui le recevait autour d'un café, il lui racontait saint Maxime, et donc père Placide raconte ces entretiens avec père Cyprien autour de saint Maxime, de saint Grégoire Palama. Saint Grégoire Palama, c'est le sujet de sa thèse, donc en 1947, il soutient une thèse sur l'anthropologie de saint Grégoire Palama. Et l'intérêt de cette thèse, c'est que toute la première partie retrace toute l'anthropologie des pères. Et donc, c'est un travail qui n'avait pas été fait encore. Voilà. Et après, il travaille sur l'Eucharistie, quoi, son sujet qui n'est peut-être pas son sujet de prédilection, mais dans lequel il a peut-être le plus excellé, c'est l'Eucharistie. Et aussi, donc, il a écrit un livre publié en 1950, l'Eucharistie, qui vient juste d'être traduit en français grâce au travail du père Marc Andronikov. Et je crois que c'est ce côté liturgique qui est le plus important, peut-être, dans ce qu'il a transmis. Si on regarde ce que raconte le père Alexandre Schmemann, qui est aussi son successeur, même s'il dit qu'il n'est pas toujours d'accord avec lui. Là, dans l'article qu'il écrit pour rendre hommage après le décès du père Cyprien, il écrit « De cette période reste une chose, mais elle reste pour toujours comme le fondement des fondements, en tant qu'une forme de vie éternelle et décisive, l'amour de l'office divin. Le sentiment liturgique et l'expérience de l'Église, une eucharisticité vraie, profonde, authentique. Je suis entièrement convaincu que la seule véritable joie dans sa vie fut la célébration de l'Eucharistie, les profondeurs mystiques de la grande semaine de Pâques et des fêtes. Là vivait toute sa foi, tout son amour de l'Église, qui n'a jamais failli, et son parfait dévouement envers celle-ci. » Et on a de nombreux témoignages sur ça, en particulier dans ce qu'il raconte de sa vie, de cette rencontre en Serbie avec cet évêque Gabriel, donc de Chelyabinsk, qui lui a transmis aussi ce goût, et dans lequel il raconte « Mon parcours et ma vie spirituelle ont défini pour moi la liturgie, non pas comme un sujet, mais comme une méthode. J'ai commencé à aborder tout de manière liturgique, et encore plus eucharistique. » Et je crois que c'est le centre de sa vie, de cet ouvrage sur l'Eucharistie et de tout son enseignement.
Un enseignement très riche, parce que Saint-Serge, il a enseigné plusieurs matières, c'est ça? Oui.
Après, il a enseigné... Alors malheureusement, en français, voilà, il n'y a que ce nouveau livre qui vient de paraître. J'espère que d'autres paraîtront, mais il a enseigné en particulier la théologie pastorale. Il a écrit un petit livre sur la théologie pastorale ou l'approche pastorale orthodoxe, qui est considéré encore aujourd'hui... Oui. Comme un des meilleurs livres de pastorale orthodoxe, donc qui est traduit en anglais, pas encore en français, mais le père Nicolas Ozoline, qui était le professeur, soulignait à plusieurs reprises comment ce livre est encore d'actualité, et Monseigneur Hilarion Alfeyev aussi le considère comme encore le meilleur ouvrage de théologie pastorale pour les séminaires russes.
Et personnellement, je peux dire que le père Boris Bobinskoy, dans ses cours, en parlait tout le temps. Ça, il citait le père Cyprien Kern très très souvent, avec beaucoup d'émotion, et il le prenait comme un exemple de vrai homme d'église qui enseignait non seulement par ses écrits, mais également par son comportement. Et ça, c'est très important. Hein,
Le père Cyprien était l'inspecteur et donc des étudiants. Donc c'est lui qui accueille les étudiants la première année. Et quoi, père Boris, j'ai entendu plusieurs fois le raconter aussi ce passage. Il a dit, père Cyprien nous accueillit avec ses paroles. Vous vous approchez maintenant du mystère devant lequel les anges eux-mêmes se voilent le visage de leurs ailes. Et le père Boris lui montrait comment il se cachait le visage avec les manches de son large rassonne. Et il dit, réfléchissez bien. Désirez-vous vraiment suivre ce chemin que vous avez choisi? Il n'est pas encore trop tard pour y renoncer. Donc vous voyez, à l'époque, on n'avait pas peur de chasser des étudiants et de les demander de réfléchir avant de s'inscrire à Saint-Serge pour dire que voilà...
Et surtout de rappeler l'importance, évidemment, du...
est une assaise très difficile et que la science théologique est une science exacte qui ne tolérait aucunement une âme double ni l'amateurisme.
Ben, c'est comme ça que nous allons terminer cette émission. Donc, merci beaucoup, Père Serge. Je rappelle le livre donc « L'Eucharistie » par le père Cyprien Kern, paru chez Apostolien en 2023. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation, Félix Levachet. Prise de son, Jérémy Kaufmann. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadrot.